9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, nous allons recevoir tout à l'heure le prix Nobel de physique 2012. C'est Serge Haroche. Il publie son premier livre, La lumière révélée, dans lequel il raconte sa vie de chercheur. Je vais lui demander si ça n'est pas de plus en plus compliqué de nos jours d'être un scientifique en général et un chercheur en particulier. La romancière Nathalie Rhin sera là également, au moment même où rebondit la polémique autour de Roman Polanski. Elle sort un livre mercredi prochain intitulé Roman, dans lequel elle le soupçonne d'avoir fait un pacte avec le diable. Mais pour commencer, j'ai invité deux avocats, Clélia Richard et Bertrand Perrier. En effet, vous l'avez peut-être lu dans la presse, la Cour de cassation a refusé cette semaine à une femme transgenre d'être la mère de son enfant. Présentée comme ça, on ne peut que s'indigner. Pourquoi une femme ne pourrait être la mère de son enfant, a fortiori de son enfant biologique, sous prétexte qu'elle est trans? Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle ne peut pas être sa mère, a dit la Cour de cassation, mais elle peut être son père. Est-ce que c'est bien ça, Clélia Richard? Vous êtes l'avocate de cette femme transgenre qu'on va appeler Claire, hein, par commodité.
Oui, on pourrait résumer ça comme ça, oui.
Elle peut être son père, et puisqu'elle est son père.
Non, alors elle n'est pas son père, en fait, elle est sa mère. Parce que au moment où son enfant a été conçu, elle avait déjà un état civil féminin. Et puis, alors, cette femme a toujours été une femme. Hein,
Vous parlez dans sa tête.
Ah oui, subjectivement, dans sa réalité, dans sa vie, dans son corps, mais aussi dans son ADN. Je vais aller jusque-là, puisqu'on va en reparler, je pense, hein, de la biologie dans cette histoire qui prend une place monstrueuse. Elle a toujours été une femme. Elle a habité un temps un corps d'homme. Et elle a, en 2011, effectivement, pu changer grâce à la jurisprudence française,
alors,
son
faut,
état civil.
Il faut bien qu'on comprenne, elle était un homme, elle était mariée, elle a eu deux enfants, et puis elle a changé de sexe en 2011. Et après avoir changé de sexe, après avoir été déclarée officiellement une femme par l'état civil, elle a fait un troisième enfant, toujours avec son épouse. Et cet enfant, c'est une petite fille qui est née en 2014. Et c'est à propos de cette petite fille que le problème se pose. Bertrand Perrier, vous étiez l'avocat qui représentait l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, l'APGL, et l'association commune trans et homo pour l'égalité. Vous étiez présent également à la Cour de cassation. Ce qu'on ne comprend pas a priori, on se dit, mais attendez, elle a été déclarée femme officiellement à l'état civil en 2011 et elle a pu faire un enfant en 2013-2014. Donc ça veut dire qu'elle avait conservé ses organes sexuels masculins. On peut changer de sexe et garder ses organes sexuels d'origine.
Oui, absolument. En réalité, ce qui prévaut, c'est le sexe psychologique. Et donc, le fait d'avoir des gamètes dans un sens ou dans un autre n'a finalement pas beaucoup d'importance. Et la jurisprudence est bien fixée en ce sens depuis des années et des années. Ce qui est très cruel dans l'affaire de Claire, c'est qu'en 2011, donc, la justice française la reconnaît comme femme, alors même qu'elle a gardé ses attributs sexuels masculins. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment le problème pour quelqu'un qui est transsexuel, et donc après lui avoir en 2011 reconnu officiellement au nom du peuple français la qualité de femme, la justice refuse de faire le deuxième pas qui était de lui reconnaître la qualité de mère. Il y avait une équation qui était assez simple, quand on est femme et qu'on est parent, bah on est mère, on n'est pas père, et donc on lui a ouvert la première porte et on lui referme la deuxième porte, et en la renvoyant à une forme de paternité, parce qu'elle ne peut pas être grand-chose d'autre que père, on la renvoie au sexe qu'elle a refusé et que la République française lui a dénié.
Alors effectivement, il y a quelque chose de totalement inextricable dans cette affaire. J'imagine qu'en tant qu'avocat, tous les deux, ça a dû vous frapper. C'est-à-dire que la Cour d'appel avait dit, par exemple, on va lui proposer d'être parent biologique. Et la Cour de cassation a dit non, ça n'existe pas, parent biologique. Il y a père, il y a mère. Elle a une mère, vous pouvez être son père. Mais comme vous le dites, elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas l'être, elle refuse.
Oui, il y a un paradoxe. Alors, la Cour d'appel de Montpellier, c'est intéressant, si vous voulez, la voie qu'elle a suivie, bien que nous savions qu'effectivement, l'arrêt serait cassé, puisque la notion de parent biologique n'existe pas. Mais enfin, l'idée, je pense que c'était d'abord et avant tout mettre l'enfant de Claire au centre de la décision. Parce qu'on parle de Claire, mais on parle aussi d'un enfant qui n'a qu'une seule filiation à l'égard de sa maman qui en a accouché. C'est-à-dire que moi, Claire, elle meurt la semaine prochaine, son patrimoine reviendra aux deux premiers enfants, mais pas au troisième. Les mamans se séparent, elles rentrent dans un conflit aigu, comme ça pourrait être le cas. Ça n'est pas le cas. Hein. Elles vivent depuis très longtemps ensemble. Elles sont mariées depuis 1999. Voyez-vous, c'est une histoire qui dure et en plus avec cette transition aussi qui aurait pu faire vaciller le couple et la famille. Et ça n'est pas le cas. Donc la vie de famille est harmonieuse. Mais enfin, cet enfant n'est pas protégé. Et la cour d'appel de Montpellier, c'était ça qui était intéressant. Bien sûr, on m'avait dit, mais maître, pendant les plaidoiries, mais maître, enfin, on ne peut pas être une femme et produire des spermatozoïdes. Et je disais, bah, écoutez, en tout état de cause, factuellement, c'est ce qui se passe. Puisque, effectivement, Claire est une femme et que, d'un point de vue biologique, physiologique, elle produit des gamètes qu'on appelle spermatozoïdes et qu'on attribue, effectivement, depuis des millénaires, au sexe masculin. Mais enfin, là, depuis quelques années, c'est possible de voir les choses autrement. J'ajoute d'ailleurs, petite parenthèse, je sais qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, mais qu'il y a aussi maintenant, grâce à la loi de 2016, hein, puisque la jurisprudence de Claire a été, j'allais vous dire, pas réifiée, mais enfin, maintenant est de portée générale de par la loi, un homme peut accoucher. Et il en existe, et il va y en avoir, et donc ses enfants, comment est-ce qu'on gère, entre guillemets, leur acte de naissance, leur état civil. Donc la cour d'appel de Montpellier, elle a mis l'enfant de Claire au centre. C'était vraiment le point cardinal de leur décision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point intéressant, et ça, je pense que Bertrand Perrier, enfin voilà, de toute façon, on discute beaucoup, hein, à battant rompu.
J'imagine.
C'est ce qu'on appelle le fait de dégenrer la parentalité. Parce qu'on est père, on est mère, mais en fait, on est des parents, avec donc ce lien de filiation reconnu, comme vous avez les vôtres, comme moi j'ai les miens, sur mon acte de naissance. C'est en fait une traduction sur le plan juridique des parents qui vont nous transmettre leur nom, leur patrimoine, etc.
Mais on voit bien, Bertrand Perrier, que c'est cette décision, elle est la première à en avoir bénéficié, si j'ai bien compris, hein, Claire, à savoir si on constate que vous êtes une femme dans votre tête, psychologiquement, eh bien oui, vous avez le droit de devenir une femme et on va officialiser le fait que vous êtes une femme. Et pour autant, vous pouvez ne pas avoir commencé même votre transition physique. Vous êtes resté, sur le plan sexuel, un homme. Et on voit bien que c'est l'inverse peut être vrai aussi, c'est ce qui fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on peut voir des hommes qui accouchent, parce que officiellement, ce sont des hommes, mais elles sont restées physiquement des femmes. C'est cette décision qui paraît surprenante et qui va rendre des situations juridiques de plus en plus inextricables.
Oui, j'imagine que nos auditeurs sont complètement abasourdis par ce qu'ils entendent, mais il faut bien comprendre, c'est la réalité même scientifique des choses. C'est-à-dire que dans l'assignation de genre, la qualité des gamètes n'a aucune espèce d'importance. Et là où l'arrêt de la Cour de cassation est assez cruel en même temps, c'est qu'il vous dit, mais vous n'êtes pas du tout privé, vous Claire, de la possibilité d'établir votre filiation à l'égard de votre enfant. Vous avez pour ça deux possibilités. Vous avez soit faire une reconnaissance de paternité, ce qui est terrible parce qu'encore une fois, la reconnaissance de paternité, ça veut dire que je suis père et que je nie tout le processus qui, je le dis tout de suite, n'est pas une tocade. Le processus de transition est quelque chose d'extrêmement encadré scientifiquement, donc c'est pas une tocade. Donc soit vous pouvez faire une reconnaissance de paternité, soit vous pouvez adopter. Mais ce qui suppose d'adopter son propre enfant. Et là encore, il faut l'accord de l'autre parent. Et là, en l'occurrence, on ne l'a pas. Donc, elle est dans la nasse.
On en parle juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous revenons sur le cas de Claire, cette femme transgenre à qui la Cour de cassation a refusé cette semaine d'être la mère de son enfant. Nous sommes avec les deux avocats qui étaient présents, Clélia Richard, l'avocate de cette femme transgenre, et Bertrand Perrier, l'avocat qui représentait l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens et l'Association commune trans et homo pour l'égalité. Vous venez de dire, Bertrand, juste avant la pause, qu'on lui a proposé évidemment soit d'être le père de son enfance qu'elle est biologiquement, et soit de l'adopter. Et ça, ça n'est pas possible parce que l'autre parent s'y oppose, c'est donc son épouse.
Oui, absolument. Leur démarche n'est pas une démarche d'adoption, puisque précisément, elles sont tout à fait unies dans ce combat pour faire reconnaître la réalité des choses, c'est-à-dire, encore une fois, qu'une femme qui devient parent, ça s'appelle une mère. Et donc, fort heureusement, on ne peut pas adopter un enfant sans avoir l'accord de son parent. Parce que, évidemment, dans les couples homo, l'adoption de l'enfant du conjoint, c'est assez classique. Sauf qu'on adopte l'enfant du conjoint quand ça n'est pas par ailleurs son propre enfant. Or là, le marché qui est proposé à Claire, c'est bien, si vous voulez être la mère, il n'y a aucun problème, adoptez cet enfant. Elle dit, mais je ne peux pas l'adopter, c'est mon enfant. Donc l'adoption serait une fiction absolument terrible. C'est pour ça que j'ai parlé, c'était un peu excessif, d'une sorte de chantage. On vous dit, ben, vous n'avez qu'à l'adopter. Et d'une part, elle ne va pas adopter son enfant parce que c'est un dévoiement du mécanisme même de l'adoption. Et en plus, Nathalie n'est pas d'accord parce que c'est son enfant et qu'elles sont unies dans ce combat consistant à dire, on ne va pas faire une sorte de pis-aller, on va dire, bon, bah d'accord, on va l'adopter. Non, l'idée n'est pas celle-là. L'idée est de faire reconnaître que la transition doit aller au bout, non seulement sur la personne, mais aussi sur sa filiation. Et avoir une conséquence, c'est qu'elle ne peut pas être autre chose que mère, et c'est conforme à l'intérêt de l'enfant. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que l'enfant, la petite fille, elle sait très bien d'où... S'il y a bien quelqu'un auquel on ne peut pas mentir sur sa filiation, c'est bien cet enfant. Et donc, l'idée de lui attribuer une filiation complètement fictive, qui serait que c'est son père, mais non, elle voit bien que c'est pas son père, elle voit bien que c'est une femme, enfin, il n'y a aucun doute.
Mais vous savez bien qu'il y a des fictions comme ça qu'on a imposées pendant des siècles. En cas d'enfant adultérin, par exemple, le père qui était marié ailleurs adoptait l'enfant, c'est une façon de le reconnaître sans pour autant se dire qu'il était le sien.
Oui, mais parce que l'intérêt de l'enfant le commandait, alors que là, l'intérêt de l'enfant ne commande absolument pas qu'on lui dise qu'une femme n'est pas sa mère.
Clélia Richard, il reste la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que vous avez l'intention, là où vous avez l'intention d'aller maintenant ?
Oui, alors il y a des petites questions techniques à résoudre, mais la Cour européenne des droits de l'homme va être saisie, oui.
Est-ce que, j'imagine, je me mets à la place de Claire, aujourd'hui elle est une femme, elle veut être la mère de sa petite fille, mais qu'en est-il de ses deux premiers enfants ? Est-ce qu'elle a l'idée ? Parce qu'après tout, son cheminement devrait l'amener à cela, à vouloir être aussi la mère des deux premiers enfants. Et dans ce cas-là, comment ça se règle ?
Alors, la loi de 2016, justement, a prévu le régime en fait, de l'état civil des enfants nés, je parle plus doucement, parce que des enfants nés avant la transition du parent. Donc, schématiquement, le nouvel état civil du parent peut être répercuté sur l'état civil des enfants nés antérieurement à ce changement d'état civil, avec, s'ils sont mineurs, l'accord de l'autre parent, et s'ils sont majeurs, avec leur accord à eux. Donc, il y a quand même une sorte de géométrie variable et une notion de... Enfin, il n'y a pas quelque chose comme ça, boum, ça se passe comme ça, et le changement d'état civil du parent a, par automaticité, si vous voulez, une répercussion sur les actes de l'état civil des enfants nés avant. Le législateur n'avait rien dit pour les enfants qui naîtraient après. C'est-à-dire que c'est ça qui est complètement, d'abord, qui est ahurissant, parce qu'on se dit, mais
ils auraient pu prévoir le
travail n'a pas été achevé, parce que le législateur aurait très bien pu prévoir, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas aussi dans d'autres pays, où dans le Code civil, il est inscrit que les enfants qui naissent avant ou après les transitions, la filiation s'établit dans le sexe d'origine du parent. Le sexe d'origine, on entend le sexe biologique. C'est intéressant quand Bertrand Perrier tout à l'heure nous rappelle que c'est le sexe en droit, c'est une notion plus psychologique qu'une notion biologisante et naturaliste en réalité des chromosomes XY ou des chromosomes XX. Et en plus, on sait qu'aussi, il y a une partie de la population, certes minoritaire, qui sont entre le XX et le XY. On peut avoir 3X et 1Y. Et donc le sexe, là, devient, j'allais dire, sur le plan biologique pur, des choses beaucoup plus compliquées, parce que les hormones, ça ne se traduit pas pareil, etc. Le sexe en droit, ce n'est pas cette notion biologiste.
Je vous remercie tous les deux d'être venus en direct sur Europe 1. À mon avis, on reparlera d'affaires similaires dans l'avenir. On se retrouve dans un instant avec Nathalie Reims.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Nathalie Reims.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez chez Léo Cher, Romane, un livre qui sort mercredi prochain. Romane Polanski se retrouve en ce moment même au cœur d'une nouvelle polémique. Il figure en effet dans la nouvelle Assemblée Générale de l'Académie des Césars en tant que membre historique. Et un documentaire intitulé « L'accusé Polanski » a été diffusé jeudi soir sur France 3 dans complément d'enquête. Et il a été accusé par le quotidien Le Parisien d'être un plaidoyer en faveur du cinéaste. Alors là-dessus, vous arrivez avec Romane.
Mais non, j'arrive avec Roman. Pardonnez-moi, je vous ai laissé parler depuis le début, mais il y a un moment quand même, je ne voudrais pas que vous me voliez mon titre. C'est Roman.
Alors c'est Roman.
Et oui.
Lui-même avait joué sur cette ambiguïté quand il avait sorti son autobiographie, elle s'appelait Roman.
Par Polanski, moi je dis Roman, par Nathalie Reims. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais néanmoins, vous sortez avec un livre dont le célèbre cinéaste est le personnage central.
Non. Ah là là, il est à égalité avec le diable. Il faut pas, si on dit les choses, il faut le dire exactement dans son exactitude. Il
c'est
est
vrai.
Le Faust, il est mon Faust à moi. C'est-à-dire que j'ai été chercher ce Faust-là pour en fait illustrer ce projet sur le diable que j'avais envie de faire depuis des années, qui a cheminé d'abord par quelque chose de très simple, c'est le désir d'écrire sur le diable. Puis ensuite, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, tout ça, évidemment la trace du livre. Et je me suis dit, là, le diable est vraiment présent. Il y a eu la cérémonie des Césars où je me suis dit, mais voilà l'éclairage qu'il me faut. C'est ce qui s'est passé ce soir-là, très précisément. Et ça, on pourra en parler si on a un peu de temps. Et puis, il y a eu le confinement. Et je me suis enfermée, puisque pour moi, Roman Polanski est le cinéaste du confinement. Avec lui, son autobiographie que je ne connaissais pas, et ses films. Et je me suis dit, voilà, quel est l'état de notre société aujourd'hui ? Cette chauve-souris, finalement, comme dans ses films, comme le diable, cette représentation de la chauve-souris qui est à la base de l'épidémie et qui règne désormais sur nous, pour moi, il était vraiment l'emblème de cette chauve-souris. Voilà, et ça donne roman, puisque tout ce qui sort de la tête d'un écrivain devient un roman.
Mais Nathalie Reims, quand on lit ce livre, on se demande effectivement si c'est un livre à charge ou à décharge pour Roman Polanski.
Ce n'est ni l'un ni l'autre.
Vous le comparez à Faust, vous vous demandez au fond s'il n'a pas fait un pacte avec le diable.
Oui.
Ça n'est pas un cadeau que vous lui faites de vous poser cette question.
Mais je ne sais pas, parce que dans l'écriture justement de ce roman, je trouvais qu'il se trouvait dans un certain nombre de ses films, et quand on lit son autobiographie, on a l'impression que l'œil du diable est quelque part dans la plupart de ses grands longs-métrages. C'est-à-dire que sa façon de filmer, les pièces, c'est souvent dans des lieux clos, qu'on prenne Rosemary's Baby ou Le Dieu du carnage ou Le Locataire, évidemment. Il aime bien les espaces clos et il a une façon de filmer qui est totalement irréelle et qui apporte quelque chose de l'œil du diable avec lui. Et sa vie, d'ailleurs, ressemble quelque part à quelque chose qui est régi par l'œuvre du diable. Maintenant, si on veut être un tout petit peu plus politique, entre guillemets, puisque vous me dites c'est ni à charge ni à décharge, ce n'est pas mon rôle d'être à charge ou à décharge. Je suis féministe, comme Elisabeth Badinter ou Simone Veil. Maintenant, je ne suis pas ultra. Je ne suis ultra de rien. Je ne suis pas pour la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'effacement. Et quand il s'est passé le soir des Césars, l'intervention de Jean-Pierre Darroussin, alors que son film était nommé, et que Jean-Pierre Darroussin avait accepté de rendre ce César. Il y avait une chance sur quatre que ce soit ce nom-là qui est dit. Alors, si aujourd'hui, prononcer, c'est ça le cœur du livre, si c'est juste prononcer le nom de Polanski, qui équivaut à prononcer et à invoquer Satan au moment de l'Inquisition, dans quelle société on est ? Il y a l'homme, il y a ce qu'il a fait, je ne suis ni juge, ni partie, j'observe, je ne suis pas là pour condamner. Je parle d'une œuvre d'un artiste qui est un monstre sacré, et chez tous les monstres sacrés, il y a le mot monstre. Voilà, donc je n'ai pas à instruire à charge ou à décharge. C'est aussi un état des lieux du monde dans lequel on est.
Justement, vous êtes peut-être à charge vis-à-vis de la société, puisque vous dites de Roman Polanski qu'il est devenu le symptôme d'un mal qui ronge notre époque. Oui. Lequel ?
Le phénomène de l'effacement. C'est-à-dire que, est-ce que bientôt, nous aurons une société où on aura tous un petit livret qui nous est donné ou qui nous est imposé, et sur ce livret, il y aura des mots permis, des noms permis et des noms interdits. C'est-à-dire sans même savoir ce qu'il y a derrière et quelle est la culture de ces gens. C'est-à-dire, on s'arrête à des faits qui certes sont monstrueux. Est-ce qu'on doit jeter toute l'œuvre de quelqu'un à la poubelle ? Alors, c'est valable pour combien d'artistes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux juste pas de cette société des apparences où tout passe par les réseaux sociaux, où on est condamné en première instance et où on ne réfléchit pas davantage à ce que c'est que la présence et l'autorisation qu'on a de dire, de parler et surtout d'écrire. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un écrivain ? Si l'écrivain doit rentrer dans le moule d'une société, par peur lui-même, cet écrivain, en écrivant un nom interdit, d'être condamné à mort. Alors, je ne sais pas où on est, où va-t-on ?
Mais vous ne vous êtes pas posé la question, Nathalie Reims, au moment de commencer ce livre, en se disant, faut-il que j'ajoute ma voix à toutes les voix déjà que l'on entend sur cette affaire ? La seule qu'on n'entend jamais, c'est celle de Roman Polanski, justement.
Bah, justement, il dit d'ailleurs sans cesse qu'il ne supporte pas qu'on analyse son œuvre. Donc c'est en partie ce que je fais à travers les films qui vont parcourir mon récit et ce pseudo-rapport avec le diable. Alors, vous savez, un écrivain, alors, il ajoute toujours une voix. Est-ce que la mienne n'est pas un peu plus dissonante que les autres ? J'étais contente de voir que Mazarine Pinjot, qui a de temps en temps des tribunes qui vont aussi vers cette forme de liberté d'expression. En fait, ce projet d'écriture autour du diable traînait en moi depuis si longtemps que quand j'ai enfin trouvé ce Faust, je ne me suis pas posé la question. Vous savez, Frédéric, j'étais donc confinée, comme tout le monde. Je sortais d'un confinement parce que j'ai été greffée il y a 3 ans, que je porte un masque, en fait, que j'ai eu 7 mois de liberté sans masque, que je me suis retrouvée confinée. Et là, je ne me suis absolument pas posé la question. Je me suis mis à écrire. Et là aussi, s'il fallait se demander s'il y a des sujets qui sont interdits ou pas, je trouvais que c'était intéressant d'éclairer tout ça d'une lumière un tout petit peu différente et tout simplement de peut-être pouvoir rentrer dans l'œuvre, tout simplement dans l'œuvre.
Dernière question, Nathalie Reims. Vous racontez une seule rencontre avec Roman Polanski au cours de votre vie, alors que vous étiez la compagne de Claude Berry, qui a été son producteur et son ami. Vous ne l'avez jamais vu, hormis cette fois-là, où en fait il vous bat froid, il ne vous parle pas.
Non, enfin je l'ai croisé 2 fois, mais c'est la même chose. Non, enfin, la fin du rapport avec Claude, même s'il se disait bonjour, était un peu froide en effet, parce que Tess, Claude Berry, avait mis sa vie et tout le reste dans ce projet de film et que ensuite, je crois que l'aventure a été fantastique et très douloureuse pour tout le monde.
Le film était très long et il n'a pas été rentable du tout.
Voilà, et il a été rentable dans le temps, mais des années après. Et Roman Polanski est ensuite allé se faire produire ailleurs. Et en effet, les 2 fois où je l'ai croisé avec Claude Berry, c'est... Voilà, il ne m'a pas regardé, mais sans doute est-ce que je n'avais aucune raison qu'il me regarde. J'étais sûrement, je ne sais pas, trop petite. Et bien là, c'est moi qui le regarde. J'ai le droit de le regarder.
Roman, c'est signé Nathalie Reims et ça vient de paraître chez Léo Cher. Merci.
Merci.
Nathalie.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Serge Haroche.
Bonjour.
Vous avez reçu le prix Nobel de physique en 2012 et vous publiez votre premier livre, La lumière révélée, chez Odile Jacob. Vous y racontez votre vie de chercheur, mais vous y racontez aussi l'histoire de la lumière, depuis Galilée, Einstein, jusqu'aux travaux qui, si j'ai bien compris, vous ont permis de capturer, de manipuler, de mesurer des photons, ces grains de qui constitue la lumière et se déplace à la vitesse de la lumière. C'est ce qui vous a valu le prix Nobel. Sacha Roche, ma première question est banale, mais pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre, sachant qu'il est très difficile de nous faire comprendre ce que vous savez, vous ?
Peut-être justement à cause de ça. C'était un espèce de défi que je me suis lancé et auquel je réfléchissais depuis longtemps. Parce que je pense que c'est très important qu'un public qui n'est pas scientifique puisse avoir accès à ce qu'est la recherche scientifique. Donc j'ai voulu parler à la fois de mon expérience personnelle, de mon aventure dans la recherche depuis plus de 50 ans. Et lorsque j'ai commencé à écrire ça, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas dissocier cette recherche de la longue histoire de la lumière depuis le XVIIe siècle. Je pense que les chercheurs d'aujourd'hui sont redevables à toutes les générations des chercheurs qui les ont précédés, et que ça forme une aventure qui est finalement une aventure essentielle à la civilisation et à la culture.
Mais la physique classique, celle de Newton par exemple, oui, elle nous expliquait des phénomènes dont nous étions témoins, que nous, oui, pouvions donc comprendre, comme la gravitation, la rotation de la Terre ou la vitesse de la lumière. Ça paraît très abstrait, mais, oui, on peut le comprendre, on l'a constaté, oui, nous-mêmes. À partir du XXe siècle, donc à partir d'Einstein et surtout de la physique quantique, ça devient très différent, car les phénomènes qui sont décrits, on n'en a même pas l'intuition.
Oui, parce que les phénomènes que la physique quantique décrit sont des phénomènes du monde microscopique. Ça se passe au niveau des atomes, des molécules ou des grains de lumière qu'on appelle les photons. Et la relativité voit ses effets se manifester de la façon la plus claire au niveau de l'astrophysique. Donc l'infiniment grand, l'infiniment petit, on n'en a pas l'intuition dans notre vie quotidienne. Et pourtant, ce sont les recherches sur la lumière qui se sont poursuivies de façon classique jusqu'au XXe siècle, qui ont conduit à ces révolutions, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer à partir de la physique classique. Donc la lumière, l'histoire de la lumière a été une histoire classique, comme vous l'avez dit, jusqu'au début du XXe siècle, mais elle a porté en elle la genèse de la physique moderne.
Mais c'est ce qui rend encore plus difficile la tâche que vous êtes fixée de transmettre. La transmission, oui, est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été.
Je ne suis pas sûr, parce que si je commence à décrire la physique au temps de Galilée. Galilée, au XVIIe siècle, a essayé d'expliquer à ses contemporains que la Terre n'était pas le centre du monde, que la Terre se déplaçait et que le mouvement était une notion relative. Et je pense que pour les hommes et les femmes du XVIIe siècle, c'était aussi contre-intuitif et aussi difficile à comprendre que la physique quantique qui nous dit qu'il n'y a pas de trajectoire pour les particules, qu'elles sont à plusieurs endroits à la fois. Ce sont des changements de perspective, ce sont des approches contre-intuitives de la science qui se sont produites à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité.
Vous avez raison, en effet. Faire de la recherche, c'est très important, y compris dans les pays pauvres, hein, parce que c'est la richesse de demain. Vous expliquez à quel point cela demande du temps et de la confiance et que c'est de plus en plus difficile à obtenir, y compris, oui, dans un pays comme la France.
Oui, je vois le changement qui s'est produit au cours de ma vie scientifique. Il y a lorsque j'ai commencé à faire de la recherche, c'était plus facile que maintenant parce que les institutions et les universités avaient plus de crédit. Ils pouvaient donner aux jeunes chercheurs les moyens de commencer leurs travaux sans avoir immédiatement essayé d'émarger un programme de recherche qui leur demande de dire ce qu'ils vont trouver, ce qui est contradictoire même avec l'esprit de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale, je veux dire. Et donc la vie est devenue plus difficile. Il y a plus de bureaucratie, il y a moins d'argent. Sans parler des salaires qui n'ont pas du tout suivi et qui sont une honte. On a parlé à juste titre au cours de la crise récente du fait que les personnels de santé n'étaient pas payés au niveau où ils devraient l'être. C'est également le cas des chercheurs, des jeunes chercheurs en particulier.
Et quand vous parlez de bureaucratie, c'est qu'on passe beaucoup de temps à justifier l'emploi de l'argent qu'on nous a confié.
D'abord à demander de l'argent et ensuite à justifier de l'argent qu'on a dépensé. Et ça a un effet pervers parce que demander de l'argent, ça demande à déposer un projet où on dit ce qu'on va trouver, grosso modo. Or, par essence même, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et ensuite, il faut justifier. Et une grande partie de la vie des jeunes chercheurs se passe à cette activité-là, qui n'est pas l'activité pour laquelle ils ont été faits. Je pense que c'est dommage pour les chercheurs et c'est également dommage pour l'État qui les paye. Parce que l'État, même si l'État ne met pas assez d'argent actuellement dans la recherche, il en met beaucoup. Simplement, je pense que ce n'est pas utilisé de façon optimale.
On se retrouve dans un instant, Serge Haroche.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Serge Haroche, vous avez eu le prix Nobel de physique en 2012. C'est du sérieux, un prix Nobel de physique. C'est un prix Nobel de la paix, un prix, oui, Nobel de littérature, c'est formidable, mais c'est sujet aux modes. Un prix Nobel de physique, on est dans le dur, on est dans le sérieux. Est-ce qu'à partir du moment où vous l'avez eu, vous avez continué de faire de la recherche? Vous étiez encore jeune.
Très relativement.
Hein, où est-ce qu'on s'arrête? Non, vous aviez 62
oui,
ans.
68 ans.
Ah, 68 ans déjà.
J'étais,
oui,
j'étais pas loin de la retraite, et, ouais, mais bon, j'ai effectivement continué. Je travaillais avec mon groupe de recherche. En fait, on ne fait pas de la recherche seul. Je travaille dans une équipe et cette collaboration avec des chercheurs plus jeunes que moi était absolument essentielle. Et elle a continué après. Ensuite, j'étais professeur au Collège de France et j'ai pris ma retraite officiellement il y a 5 ans déjà. Mais j'essaye de continuer à me tenir au courant, à voir ce que les jeunes chercheurs font et admirer beaucoup leur dynamisme et le fait que malgré les conditions difficiles dont on a parlé tout à l'heure, ils continuent à découvrir des choses et ils continuent à porter en avant cette flamme, cette curiosité, cet enthousiasme.
La connaissance a beaucoup progressé depuis un demi-siècle, et oui. En partie grâce à vous. Et quand on lit La Lumière Révélée, votre livre qui vient de paraître chez Odile Jacob, on a l'impression que vous reprochez à notre société, à notre monde, d'être devenu moins rationnel. Comment l'expliquez-vous ? Comment expliquez-vous que plus on en sait, moins on est rationnel ?
Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on en sait plus, mais c'est peut-être lié aux circonstances et au temps présent, au fait que il y a un mouvement anti-scientifique qui accompagne les différents populismes, qui accompagne le fait que un certain nombre de gens se renferment de leur communauté, de leur façon de penser, et que l'irrationnel, les théories du complot se développent. Et donc savoir d'où ça vient, ça nous amènerait assez loin. Je pense qu'il faudrait être anthropologue ou sociologue pour vraiment le comprendre. Mais ça a un effet dévastateur sur la science, comme on l'a vu d'ailleurs au cours de la dernière crise. Les médecins ont été pris dans cette tourmente. On le voit dans le problème du climat, avec ce qui se passe dans différents pays du monde, et aux États-Unis en particulier. Il y a une défiance dans la science qui est liée au fait que les gens se sentent... Il y a une peur dans la société. Les gens qui se sentent laissés sur le bord du chemin ont une tendance naturelle à essayer de se réunir, de se rassembler autour de croyances qui les rassurent. Et par définition, de telles croyances ne peuvent pas être scientifiques, parce que la science est universelle. Et si on essaye d'exprimer des vérités universelles, on va à l'encontre de cette tendance à la tribalisation. Je voudrais aussi dire un point important sur la recherche de la vérité scientifique, c'est qu'elle est basée sur le doute. Le doute, on remet en cause ce qu'on observe. Il faut que les observations soient compatibles avec les théories. Si la théorie ne prévoit pas ce qu'on observe, il faut changer la théorie. C'est ce que j'appelle le doute rationnel. Or, le doute qui s'exprime dans les théories du complot dont je parle, c'est un doute, mais complètement irrationnel. Donc, c'est une perversion, finalement, de ce que devrait être la vérité scientifique. Et c'est ça qui fait que ces tendances sont très, très dangereuses pour la science. Elles sont dangereuses pour la société en général, mais pour la science en particulier.
En 2016, Serge Haroche, vous aviez signé avec 106 autres prix Nobel une lettre de soutien à l'agriculture de précision, c'est-à-dire aux OGM. Vous exhortiez Greenpeace en particulier à cesser ses campagnes contre les OGM et contre le riz doré en particulier. Oui. La lettre se terminait par cette phrase: combien de pauvres gens dans le monde doivent mourir avant que nous considérions cela comme un crime contre l'humanité. S'opposer à la culture des OGM, c'est irrationnel à vos yeux et c'est au fond se rendre complice d'un crime contre l'humanité ?
Non, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas spécialiste en biologie. On m'a demandé de signer cette lettre et elle était écrite par des collègues et des gens que j'ai rencontrés à plusieurs reprises et auxquels je fais confiance sur l'aspect scientifique des choses. La dernière phrase qui parlait de crime contre l'humanité était peut-être un peu forte et c'est elle qui a provoqué la polémique, mais je pense que ce qu'il y avait dans cette lettre était fondamentalement juste, le fait que il faut réagir devant des problèmes de façon rationnelle. Alors j'ai l'impression que les anti-OGM le font de façon systématique et autour d'une idéologie et non pas de façon rationnelle. Il y a certainement le fait qu'on modifie génétiquement des organismes, on n'a pas attendu les OGM pour le faire. Toute la domestication des animaux est basée là-dessus. Et je pense qu'il faut voir les choses de façon rationnelle et mesurée. Et pondérer, peut-être que la dernière phrase sortait un peu de ce cadre.
Mais néanmoins, on a un problème, d'après vous, avec la vérité scientifique. Oui. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Or, vous rappeliez dans cette lettre qu'aucune vérité scientifique n'avait été établie à l'encontre des OGM. Oui. Et que donc, cela oui. pouvait sembler irrationnel oui. que de s'y opposer.
Oui. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on peut dire la même chose de beaucoup d'avancées modernes de la technologie. On parle maintenant de la 5G. Les gens parlent des dangers que ça présente pour la santé. Il faut étudier ça en détail, mais pour l'instant, aucune preuve d'une dangerosité de cette technologie n'a été avancée. Donc, je pense que la science, elle consiste à découvrir, à accroître les connaissances, à donner des moyens à l'humanité pour résoudre un certain nombre de problèmes. Après, c'est aux politiques et aux gouvernants de décider ce qu'il faut faire, mais il faut essayer de le faire de façon rationnelle.
Il y a une série américaine qui a beaucoup de succès depuis 12 ans, c'est The Big Bang Theory, dont les héros sont des physiciens. L'un d'entre eux, Sheldon Cooper, est doté d'un QI de plus de 150. Il est interprété par Jim Parsons. Il est l'objet d'un véritable culte. Et dans le dernier épisode de la série, on lui remet le prix Nobel de physique. Ma question, c'est, est-ce que vous regardez une série celle-ci ?
J'ai regardé un ou deux épisodes, mais ce n'est pas le genre de série que j'aime. Je crois que c'est une série où il y a des rires en concert.
C'est vrai, c'est une série qui passe sur CBS, il y a les rires enregistrés. Néanmoins, il y a des vrais, ce sont des physiciens qui se racontent des blagues de physiciens.
Oui, il y a une ou deux blagues qui m'ont fait rire ou sourire, mais enfin, je préfère d'autres genres de séries.
Merci Serge Haroche. Je rappelle que La Lumière Révélée vient de paraître chez Odile Jacob. C'est votre façon à vous de transmettre. Big Bang Theory en serait une autre. Donc, merci d'être venu ce matin sur Europe 1.
Merci. Europe 1.